VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, Anastasie Tudiache et Anne Albertson avec vous. Au sommaire de ce mardi 22 décembre 2015, Anne.
Au Burkina Faso, mandat d'arrêt contre Blaise Compaoré.
Crise au Sud-Soudan, le retour du chef rebelle Riek Machar se prépare.
À Djibouti, interrogation sur des violences survenues hier pendant un rassemblement religieux.
En Chine, un avocat et défenseur des droits de l'homme condamné à 3 ans de prison avec sursis. À venir, l'économie et le sport, mais tout de suite, c'est le journal.
La justice militaire du Burkina Faso a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Blaise Compaoré pour son implication présumée dans la mort de l'ancien chef d'État Thomas Sankara. Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire depuis sa fuite du pays en octobre 2014. Et toujours à propos du dossier Sankara, les tests ADN n'ont pas été concluants selon des résultats présentés hier à la justice militaire. Julien Laloco est l'un des avocats de la famille Sankara.
Je dois rappeler qu'avant le test ADN, il y avait déjà eu les rapports donc balistiques et déjà donc sur la base de ces éléments, effectivement, nous avions des indices qui nous permettaient de croire que les tombes donc sont supposées en tout cas contenir les restes des victimes. Mais le rapport ADN devrait venir vraiment conforter cette thèse. Les familles des victimes ont la possibilité de demander des contre-expertises avec d'autres laboratoires. Ça, c'est leur liberté.
Est-ce que la présence du général Gilbert Diendéré ce lundi matin au tribunal militaire était liée à la publication des résultats de ces tests ADN?
Oui, absolument. Et n'oubliez pas que le général Gilbert Diendéré également a été inculqué donc dans ce dossier. Et en la matière, la législation burkinabè veut que lorsque l'on déballe effectivement de tels résultats, les résultats d'expertise, que toutes les parties donc soient conviées, autant les parties civiles doivent être là, autant effectivement ceux qui sont mis en cause doivent être là.
Julien Laloco, l'un des avocats de la famille Sankara, joint à Ouagadougou par Bagassi Koura.
Crise sud-soudanaise, une délégation rebelle est arrivée lundi à Juba pour préparer le retour, prévu le mois prochain, du chef rebelle Riek Machar en application de l'accord de paix du mois d'août. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'accord signé par le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival et ancien vice-président Riek Machar prévoit un cessez-le-feu, la démilitarisation de Djouba, la capitale, l'intégration des forces armées et de la police, de même que la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les deux camps se sont mutuellement accusés de violer la dernière trêve comme les précédentes. « Notre arrivée à Djouba constitue la fin de cette guerre », a déclaré le principal négociateur rebelle, Tabang Deng, ajoutant que l'arrivée du chef rebelle Riek Machar dans la capitale interviendra en janvier. Quelques 600 dirigeants rebelles sont attendus à Djouba ce mois-ci. Le porte-parole rebelle James Gaddet, que cite l'agence Associated Press, a indiqué de son côté que la mise en place du gouvernement d'union nationale interviendra d'ici le 22 janvier. Le conflit sud-soudanais, qui a éclaté à la mi-décembre 2013, a fait des milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés et de réfugiés.
À Djibouti, des militants de l'opposition affirment que 19 personnes ont été abattues hier par les forces de sécurité lors d'un rassemblement religieux dans la capitale. Des détails avec Michel Joseph.
Des témoins rapportent que les forces de l'ordre sont intervenues vers 5 heures du matin et ont tiré à balles réelles sur une foule commémorant un leader religieux. Un correspondant de la VOA à Djibouti rapporte que plus de 10 personnes ont été blessées. Dans un communiqué, le ministre djiboutien de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, affirme de son côté que plusieurs dizaines d'individus armés se sont regroupés avant de lancer une offensive contre les forces de l'ordre, parmi lesquelles on dénombre 9 blessés, dont un officier blessé par balle. Selon le même communiqué, la violence de lundi a été orchestrée par des individus mal intentionnés recevant des instructions de la part de parrains qui agissent depuis l'étranger. Des accusations que refute le chef adjoint de l'opposition, Elmi Khair, qui a dit que les personnes prises pour cible participaient à une cérémonie religieuse. Des opposants étaient présents dans la foule, y compris le chef de l'opposition, Ahmed Youssouf, qui a été blessé, a expliqué Elmi Khair.
L'UNICEF dénonce l'une des conséquences des actions menées par le groupe terroriste Boko Haram, la privation d'éducation pour les enfants. Plus de 2000 écoles ont été fermées au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger, les quatre pays les plus affectés par les attaques du groupe. Et des centaines d'autres établissements ont été attaqués, pillés ou incendiés par les djihadistes, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Les écoles, les élèves et les professeurs font partie des cibles du groupe islamiste, dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché » en Hausa, la langue la plus parlée dans le nord du Nigeria. Plus longtemps les enfants ne vont pas à l'école, plus ils risquent d'être maltraités, enlevés et recrutés par des groupes armés, a déclaré Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. La rébellion de Boko Haram et sa répression féroce par les forces de sécurité ont fait 17 000 morts et 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Sur les 276 lycéennes enlevées à Chibok, au nord-est du pays, le 14 avril 2014, environ 200 par le groupe terroriste. Selon l'UNICEF, certaines écoles ont pu rouvrir à mesure que l'armée nigériane a regagné du territoire, mais nombre d'entre elles sont surpeuplées et sous-équipées.
Le gouvernement malien a proclamé lundi l'état d'urgence pour une durée de 10 jours, à compter de minuit, à la suite de ce que des sources proches de la sécurité présentent comme une série de menaces émanant de groupes djihadistes. L'institution de l'état d'urgence vise à donner aux autorités compétentes les moyens de droit leur permettant de mieux circonscrire et combattre tout projet d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens et toute tentative de trouble à la quiétude des populations, a déclaré le gouvernement dans un communiqué sans donner davantage de précisions.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Antonio Guterres, s'est prononcé hier en faveur d'un New Deal pour les pays limitrophes de la Syrie, qui accueillent des millions de réfugiés fuyant ce pays. M. Guterres s'est appuyé sur une étude du Haut Comité aux réfugiés et de la Banque mondiale, indiquant que 9 Syriens sur 10 installés en Jordanie et au Liban vivaient au-dessous du seuil de pauvreté et que la moitié des enfants réfugiés ne vont pas à l'école. Selon le HCR, 4,5 millions de Syriens vivent dans des zones difficiles d'accès et les organisations humanitaires n'ont pu secourir que 32% d'entre eux entre septembre et novembre dernier.
L'avocat chinois Pu Shiqiang, jugé pour avoir été très critique des autorités chinoises à travers des microblogs, a été condamné aujourd'hui à une peine de 3 ans de détention avec sursis. C'est la chaîne de télévision d'État CCTV qui l'a annoncé, ce qui peut laisser penser qu'il ne sera pas emprisonné pour sa peine. Pu Shiqiang, 50 ans, a été reconnu coupable d'incitation à la haine raciale et d'avoir provoqué des querelles et fomenté des troubles. Il a indiqué qu'il ne ferait pas appel de ce verdict.
Ici aux États-Unis, à Cap Canaveral, en Floride, la société SpaceX a réussi lundi une opération inédite, faire décoller une fusée Falcon 9 destinée à envoyer 11 satellites en orbite autour de la Terre et la faire ensuite revenir le premier étage de son lanceur sur Terre.
Le gouvernement libanais a annoncé hier soir avoir trouvé une solution temporaire à la crise des déchets qui secoue le pays depuis 5 mois et a engendré des manifestations cet été. Les déchets qui jonchaient les rues libanaises vont être transférés à l'extérieur du pays, une opération qui va dururer 18 mois pour un coût de $125 par tonne. À l'origine de la crise, la fermeture en juillet de la principale déchetterie du pays et l'accumulation des ordures dans les rues de Beyrouth qui avait suscité une mobilisation non confédérale et non partisane sans précédent. La destination des déchets n'a toutefois pas été précisée.
Et puis en Allemagne, 2 pasteurs en cours de formation dans une église protestante luthérienne de Berlin, l'église de Zion, ont apporté un peu de changement à leur prêche. Ulrike Garve, 29 ans, et Lucas Ludovic, 30 ans, ont tenu dimanche un sermon d'un nouveau genre en brandissant un sabre laser rouge, rapporte la très sérieuse AFP. Les 2 pasteurs ont célébré le culte sur le thème de Star Wars, brandissant des sabres laser devant des fidèles déguisés en héros Chewbacca ou Darth Vader, principal héros de la saga conçue par George Lucas. Plus nous parlions des films de la série, plus nous y décelions des parallèles avec les traditions chrétiennes, a assuré Ulrike Garve. Nous voulions expliquer ces parallèles à ceux qui viennent au service religieux.
Place à la Minute Éco maintenant avec vous, Idrissa Diab.
Le Burkina Faso a réalisé un taux de 104,07% pour l'émission de bons de trésor d'une valeur de 30 milliards de francs CFA, lancé le 15 décembre dernier, a appris l'agence APA lundi, auprès du ministère de l'Économie et des Finances. 36 soumissions ont été enregistrées pour un montant global de 31,2 milliards de francs CFA. Le budget 2016 de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, s'élève à 203 milliards de francs CFA, a annoncé lundi à Dakar Jean-François Thibault, le président du conseil d'administration de l'institution, qui a souligné que les états financiers de l'agence se portent bien. Wall Street a ouvert en hausse lundi, les deux précédentes séances de forte baisse encourageant une chasse aux bonnes affaires de la part des investisseurs qui n'étaient pas déjà en congé. Le pétrole a ouvert en légère baisse lundi à New York, continuant d'évoluer à ses plus bas niveaux depuis plusieurs années face au déséquilibre entre offre et demande dans un marché déserté à l'entame d'une semaine de Noël.
Et maintenant dans le monde aujourd'hui, c'est le sport. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Anastasie.
Les étalons du Faso se retrouvent sans entraîneur.
Gernot Rohr n'est plus le sélectionneur du Burkina Faso. Le technicien franco-allemand a annoncé sur sa page Facebook qu'il quittait son poste sur le banc des étalons. Il occupait cette fonction depuis le printemps 2015.
Quelques matchs en retard du championnat du Sénégal.
Niaritali battu à domicile 1-0 par le Djaraf de Dakar lors de ce match en retard de la cinquième journée. Mour Petite Côte, toujours en tête du championnat sénégalais.
Autre championnat, celui de Côte d'Ivoire à présent.
Le Stade d'Abidjan a battu l'Afa Djekanou 3 buts à 2 au classement. La première place du championnat ivoirien est toujours occupée par le Mouassou FC.
Et puis Pep Guardiola qui quittera le Bayern en fin de saison.
L'entraîneur Pep Guardiola a informé la direction du Bayern Munich de sa décision de quitter le club à la fin de la saison il y a 2 semaines et s'en est presque excusé, a révélé hier le président du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge dans le quotidien allemand Bild. Le club champion d'automne a annoncé avant-hier que Pep Guardiola, après 3 ans sur le banc munichois, quitterait la Bavière à la fin de la saison. Il sera remplacé par l'entraîneur italien Carlo Ancelotti. Enfin, Anastasie, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Orlando Magic ont disposé des New York Knicks par 107 points à 99. Brooklyn Nets a été vainqueur des Chicago Bulls, 105 points à 102. Les Charlotte Hornets ont perdu face aux Houston Rockets, 95 points à 102. Les Phoenix Suns ont perdu 89 points face aux Utah Jazz, qui ont remporté le match à 110 points. Les Sacramento Kings ont, eux, perdu à 99 points contre les Washington Wizards, vainqueurs avec 113 points. Et les Minnesota Timberwolves ont perdu à 99 points face aux Boston Celtics, 113 points. Portland Trail Blazers perdant avec 97 points face aux Atlanta Hawks et 106 points. Et les Indiana Pacers ont perdu face aux San Antonio Spurs, 92 points contre 106.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Crying, one love. Hear the children crying. One love. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Anastasie Tudiech avec vous et tout de suite les dossiers du jour. Au Niger, l'opposition politique ne se sent pas concernée par le fichier électoral remis lundi après-midi à la CENI pour organiser les élections générales de 2016. Précision de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Monsieur le secrétaire général permanent de la CENI, vous recevez le registre des électeurs du Niger 2015.
C'est au cours d'une cérémonie présidée par le ministre d'État à la présidence Albadie Abouba que le comité chargé de son élaboration a remis le fichier à la Commission électorale nationale indépendante. Le délai prévu par les textes a de justesse été ainsi respecté, fait remarquer le président de l'institution en charge de l'organisation des élections, le magistrat Boubé Ibrahim.
La loi prévoit que le fichier soit établi au plus tard 60 jours avant la date du scrutin. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre 2015. Les premiers scrutins vont avoir lieu le 21 février 2016. L'exigence de la loi a donc été respectée. Il appartient dès lors à la CENI de s'approprier ce fichier et de prendre toute initiative ou disposition utile afin de ramener la sérénité autour de cette question. Conscient de notre noble mission et de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, en ce moment crucial du processus, nous sommes déterminés à assumer ses responsabilités en toute indépendance.
Les partis politiques de l'opposition ne sont toutefois pas d'accord avec ce fichier. C'est pourquoi ils ont d'ailleurs boycotté la cérémonie de sa remise. Moussa Idé, membre du bureau politique national du MNS de Nassara, le principal parti de l'opposition.
Vous avez vous-même vu celui qui a dirigé les travaux, c'est un ministre sans portefeuille. Le Premier ministre, sachant qu'il n'y a pas de réalité dedans, il a fait exprès de ne pas venir.
Pourquoi vous n'avez pas assisté à la remise de ce fichier? Parce que c'est avec lui qu'on va aller aux élections.
Oui, mais parce que tout simplement, il n'y a pas eu de consensus. Les textes ont prévu un consensus. Les textes n'ont pas prévu, voilà une majorité, une minorité. Et le fichier, nous avons constaté, a été remis. Dans tous les cas, nous allons aux élections où il n'y a pas d'élection. C'est clair.
Vous ne vous reconnaissez pas à travers ce fichier?
Mais le fichier est faux. On a demandé d'auditer le fichier n'a pas été audité. Est-ce que quelqu'un qui vend des consommables peut auditer un fichier? Nous avons demandé que l'OIF soit là pour auditer ce fichier-là. Le pouvoir a mordicus refusé.
Du côté du pouvoir, l'on estime que le débat est clos. Hassoumi Massaoudou, secrétaire général du principal parti au pouvoir et ministre de l'Intérieur.
C'est le fichier le plus propre, le plus inclusif, le fichier le plus transparent qui a été confectionné dans ce pays-là. Donc il faut arrêter de nous amuser. Ce fichier est terminé, les cartes d'électeurs seront éditées et distribuées et nous irons aux élections. Maintenant, celui qui ne veut pas aller aux élections, c'est son affaire. Nous n'allons pas continuer à faire du ping-pong avec ces gens-là. Donc ces questions-là, pour nous, c'est réglé, elles sont derrière nous. Maintenant, ils peuvent continuer. Nous avons fait assez de consultations. Ce fichier est le plus consensuel possible qui ait eu lieu dans notre pays. Jamais il n'y a eu un fichier aussi consensuel. Jamais il n'y a eu un processus aussi inclusif.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé vendredi soir à Addis Abeba d'autoriser le déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection au Burundi appelée la MAPROBU pour une période initiale de 6 mois renouvelable. Analyse de Jean-François Dupaquier, journaliste écrivain spécialiste des Grands Lacs. Il est au micro de Eric Manirakiza.
Il est clair que les autorités du Burundi d'aujourd'hui refusent cette hypothèse de voir leur pouvoir contrôlé et leurs erreurs amendées ou corrigées. La perspective de déployer 5000 hommes au Burundi nous rappelle quelque chose. C'était la configuration prévue au Rwanda en 1993 par l'Organisation des Nations Unies pour une force apte à empêcher le pire, même si le génocide paraissait, disons, moins prégnant qu'aujourd'hui au Burundi. C'est une très bonne perspective, c'est une très bonne configuration, il reste maintenant à l'appliquer.
L'appliquer comment?
Eh bien, il faudra visiblement transgresser la volonté du président Pierre Nkurunziza et de ses proches, puisqu'ils ne veulent pas que le vase clos qu'ils sont en train d'organiser et qui semble conduire le pays à l'horreur soit interrompu par une autorité internationale.
Est-ce que la communauté internationale tarde à agir sur la question burundaise ?
Il est évident que confier à l'Union africaine la responsabilité d'intervenir au Burundi est une très bonne décision. Toute autre décision paraîtrait à la fois étrangère au continent et inopportune et sans doute impossible à mettre en œuvre par manque de volonté politique d'États européens de faire partie de la recomposition politique au Burundi. C'était vraiment la meilleure idée qui soit apparue sur la scène diplomatique de tous ces derniers mois.
Comment vous analysez le comportement de l'East African Community ?
Visiblement, tout le monde est conscient des enjeux. Les pays voisins sont terriblement inquiets de l'évolution du Burundi depuis la décision du président Nkurunziza de briguer un troisième mandat. La société burundaise attendait la fin du deuxième mandat pour voir Nkurunziza quitter la scène, car il avait déçu profondément les Burundais par son incapacité à gérer le pays, au contraire par sa propension à développer la corruption, le népotisme, l'ethnisme, la violence. Il est clair qu'il faut qu'il s'en aille. Et la question maintenant est de savoir comment la communauté est-africaine va réussir à l'amener à quitter le pouvoir.
Jean-François Dupaquier, joint en France par Eric Manirakiza. Au Sénégal, le député de l'opposition Oumar Sarr, coordonnateur et secrétaire général du Parti démocratique sénégalais, a été inculpé et placé sous mandat de dépôt hier à Dakar pour diffusion de fausses nouvelles. Cette arrestation est en rapport avec l'affaire Lamine Diack, l'ancien patron sénégalais de l'athlétisme mondial, poursuivi en France pour corruption et blanchiment. Éclaircissement de Momar Seydine Diaye, éditorialiste du site Séné+, joint à Dakar par Idrissa Seydoudia.
Oumar Sarr, après les révélations de Lamine Diack, avait tenu des propos extrêmement durs, il faut bien le dire, contre le président, en lui demandant effectivement de rendre des comptes au sujet des accusations de corruption, mais également en rappelant d'autres affaires qui concernent effectivement la vie de la République, notamment les marchés publics, pour lesquels Oumar Sarr accuse le président d'avoir pris des mesures qui inciteraient au gré à gré, et tant d'autres accusations. La justice a estimé que ces propos étaient désobligeants et pouvaient constituer une sorte d'atteinte à l'honorabilité du président de la République, et c'est la raison pour laquelle il a été entendu et probablement il sera mis en examen et retenu pour pouvoir répondre après de ces accusations tout de même assez graves.
Mais M. Diack lui-même et les autorités russes mises en cause, le monde qui a cité l'information en premier lieu, tout ce beau monde a démenti.
Oui, mais ces accusations que Lamine Diack aurait portées contre le pouvoir ont été démenties par le monde par la suite. Et il se trouve effectivement que dans les déclarations de Lamine Diack, il ne parlait pas de corruption, de financement de la campagne du président de la République. Or, la déclaration de Oumar Sarr est très péremptoire. Elle indexe véritablement le président en l'accusant d'encourager également la corruption, des pratiques douteuses, de blanchiment d'argent. Tout ce que Lamine Diack n'a pas réellement dit dans sa déclaration. Cela dit, maintenant, il est très difficile d'accepter que des hommes politiques puissent être emprisonnés ou arrêtés dans le cadre de leur fonction d'homme politique.
Il bénéficie de l'immunité parlementaire.
Oui, mais il n'a pas tenu ses propos dans le cadre de ses fonctions de député. Il les a tenus dans une déclaration officiel du PDS qu'il a lui-même signé. Donc dans des situations comme ça, effectivement, on considère que ce n'est pas le député qui parle, mais c'est bien l'homme politique qui parle. Et probablement, la justice estime qu'elle est fondée à l'arrêter, puisqu'il n'a pas parlé, est-ce qualité, il aurait parlé effectivement un tutu personnel, ou pour le moins, en faveur du PDS. Mais il faudra quand même reconnaître que, tout de même, il est difficile de séparer les deux fonctions, parce que Oumar Sarr est d'abord homme politique, numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, et qu'à ce titre, il doit remplir la fonction tribunicienne qui lui permet effectivement d'émettre des jugements sur le fonctionnement du pays, et notamment, quitte même à mettre en cause le président Macky Sall.
Momar Seydine Diaye, l'éditorialiste du site sénégalais Séné+, il était au micro de Idriss Seydou Dia.
Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle est le titre du dernier livre de Jean-Emmanuel Pondy, secrétaire général de l'université de Yaoundé 1. Cet ouvrage, un ouvrage qui paraît alors que l'on vient de commémorer l'anniversaire de la naissance de Thomas Sankara, qui est né un 21 décembre 1949. John Lyndon a demandé au professeur Pondy ce qui l'a amené à rédiger ce livre.
D'abord, c'est de montrer aux jeunes Africains en particulier qu'il existe bel et bien des modèles en Afrique, en termes de comportement, en termes d'éthique, en termes d'ambition pour le continent, pour un continent debout économiquement, debout sur le plan culturel. Et il me semble que Thomas Sankara est l'incarnation de cette philosophie. Et en deuxième lieu, j'ai voulu montrer que Thomas Sankara n'était pas un homme du passé, mais que ses idées entre 1983 et 1987, quand il était président, sont des idées d'aujourd'hui, du XXIe siècle. C'est donc un homme en réalité du futur. Et tout au long du livre, cela se voit, parce que toutes les valeurs cardinales qu'il a défendues sont des valeurs qui sont encore présentées comme à parfaire, non pas en Afrique seulement, mais dans le monde entier.
Dans l'un des chapitres de cet ouvrage, on lit un extrait où le président Sankara fait une déclaration de ses biens. Quel commentaire vous faites de cet épisode-là ?
Non, il est tout simplement quelqu'un qui agit par rapport à ce qu'il croit. Il n'y a rien d'étonnant à cela, parce que tout son discours démontre une certaine cohérence du début à la fin. Il n'agit pas différemment de ce qu'il dit. Il y a une convergence entre l'action et les gestes qu'il pose au quotidien. Et donc je crois que ça rentre dans ce contexte-là, cet épisode également.
Si Sankara était vivant aujourd'hui, vous pensez que le Burkina aurait un autre visage ?
Bon, on peut toujours faire dans la politique fiction, hein, mais la manière dont il a vécu, le rythme auquel il a imposé des changements, tout ceci a fait qu'il a nécessairement généré quelques mécontents, comme ça s'est vu par la suite. Donc son entourage n'était pas toujours très satisfait des changements radicaux qu'il imposait, parce qu'il disait que c'est d'abord le peuple qui doit être bénéficiaire de tout ce qu'il fait. Et je suis sûr que ce petit peuple était avec lui, mais malheureusement, une dichotomie s'est créée avec les hauts dirigeants de son pays, et ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Mais je pense que son legs est un legs d'une probité morale. Ça montre qu'on peut diriger un pays avec une probité morale, avec un sens de l'éthique très élevé et un sens du service public irréprochable. Ça a été vraiment le message, à mon avis, qui laisse et qui restera éternel.
Jean-Emmanuel Pondy de l'université Yaoundé 1, auteur de l'ouvrage Thomas Sankara et l'émergence de l'Afrique au XXIe siècle. Il était au micro de John Lyndon.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Yeah.
C'était Le Monde aujourd'hui. Merci pour votre attention. La mise en onde était assurée par Anne Albertson à la console. C'était John Ellison. Et avec vous pour la présentation, Anastasie Tudiech. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com pour l'info 24h sur 24. Très bonne journée à toutes et à tous. Restez à l'écoute des programmes de VOA Afrique.